je te remercie infiniment, Frédéric, pour l'initiative et pour l'occasion que tu me donnes de rencontrer des étudiants et des collègues aussi, des amis, pour partager un souci, tout simplement, et des préoccupations que j'ai depuis 2011, à savoir s'aligner aux archives. Je vais commencer mon allocution en mettant l'accent sur un paradoxe. Un paradoxe concernant la relation Maroc-archives. Maroc, pays musulman, bien entendu, où l'écrit, c'est d'abord la langue arabe. Et vous savez que dans les pays de l'islam, en quelque sorte, la religion a sacralisé la langue arabe. La langue n'a rien de sacré. C'est un moyen pour communiquer. Mais, d'une certaine façon, du moins du vécu au Maroc, l'islam a sacralisé la langue arabe à tel point que, dans notre enfance, nous voyons, on a vécu, on a vu des gens se pencher dans la rue pour ramasser un petit papier de journal sans même savoir ce qu'il y a écrit dans ce journal, pour baiser, adoration, et le mettre à l'écart pour ne pas être piétiné. Même les ignorants qui ne savaient pas ce qui était écrit, le fait même de savoir que c'est écrit en arabe, il y a toujours... Il se pourrait qu'il y ait le nom d'Allah dans cet écrit. Alors que ça pouvait être tout simplement un tract du Parti communiste. Ou autre. Donc c'est pour cela que je dis que l'islam a d'une certaine façon sacralisé caractère arabe et l'écrit en langue arabe. Et par conséquent, la société, les lettrés, se sont toujours occupés des manuscrits. Même ceux qui n'étaient pas aptes à savoir ce qu'il y avait dans le manuscrit, lui donnaient une certaine valeur. Donc, dans les palais royaux, dans les maisons de notables, dans les maisons de ceux qui en avaient les moyens, la collection des manuscrits était une chose habituelle. Manuscrits traitant de la théologie, traitant de la grammaire, de la médecine, de l'astrologie ou autre. Cependant, c'est là le paradoxe. L'archive, les archives, en tant que documentation produite par un État central, produite ou reçue par un État central, par des institutions, là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas eu ce souci qu'on retrouve dans la récupération des manuscrits, de théologie, de grammaire, etc. La preuve est que toutes les dynasties qui se sont succédées au Maroc, il n'y a pas eu vraiment un souci officiel. Un souci officiel de garder les archives. À tel point que le Maroc, quelquefois au 19e, au 18e siècle, a conclu des traités de paix et de commerce, comme on disait alors, avec certaines puissances étrangères, et quand ces puissances étrangères avaient quelques litiges avec le Maroc, les Marocains n'arrivaient pas à retrouver la convention ou le traité de paix signé avec cette puissance. Maintes fois, nous avons retrouvé quelques correspondances disant « Pouvez-vous nous donner une copie de ce que nous avons signé il y a quelques décennies ou il y a quelques siècles ?» Ça, c'est une aberration, un paradoxe. Je tiens à souligner. Et un autre indicateur de ce paradoxe, c'est que un ministre qui a des prérogatives, qui a des responsabilités. Il est dans sa ben niqab, son bureau, entre guillemets, dans sa ben niqab au palais royal. Il écrit ce qu'on lui demande d'écrire. Il lit ce qu'on lui demande de lire quand, pour les arrivées, quoi, pour utiliser l'expression d'aujourd'hui. Il répond, et quelquefois même, attention, quelquefois même, elle répond au dos de la, au dos de la lettre reçue. Ce qui fait perdre à la partie qui a reçu l'archive, l'original, qui quelquefois, heureusement, conservait ailleurs. Donc, ces responsables, ces ministres, eh ben, une fois leur mission finie, ils repartent dans leur couffin avec les correspondances qui leur étaient destinées comme un bien personnel. En d'autres termes, ça souligne l'absence d'une stratégie de l'État en ce qui concerne les correspondances et les archives, sauf de très rares exceptions. C'est ce qui explique d'ailleurs, aujourd'hui même, que ces grands... que quelques grandes familles marzéniennes gouvernementales, marzéniennes du gouvernement marocain traditionnel, possèdent par héritage des fonds d'archives, le fonds Torres, le fonds ceci, le fonds Sveri, le fonds fond familial. En d'autres termes, ce qui était à l'origine étatique, administratif, marocain tout court, devient familial. Là, familial, bon, ils sont bien, ces familles sont bien contentes, mais comme un legs privé, et non pas, on viendra ce que dit la loi après. Donc c'est là, je tenais en guise d'introduction à souligner ce paradoxe, et par conséquent, dans le Maroc précolonial, avant 1912, ce qu'on a comme archive, c'est juste un peu par hasard ce qui est resté dans le palais royal de Fès, palais royal de Meknès, palais royal de Marrakech, de Rabat d'ailleurs. Un peu par hasard, mais il n'y avait pas une structure d'archive. Je sais qu'elle est également tardive dans d'autres pays, y compris la France. Bon, pour la France, c'est la Révolution française. Il y eut quand même une petite tentative d'organisation. Elle date de la première décennie du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un challenge, qu'il y avait un défi. Ce qu'on appelait alors la question marocaine était internationalisée. Elle a commencé à l'être par le traité de Madrid de 1880, et puis il est devenu encore plus fort, d'une façon plus forte, en 1906 avec Algésiras, le traité d'Algésiras. Et là, comme il y avait à Dar Niaba, c'est la représentation du sultan à la ville de Tanger, qui était ville internationale avant le traité juridique de 1923, mis en application en 1925. Donc, dans les faits, elle était déjà internationale. Entre parenthèses, cela remonte à l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah, quand ce sultan-là, qui était quand même épris d'ouverture, avait jugé que les légations étrangères, il fallait un peu ne pas trop les laisser élire domicile à l'intérieur des villes impériales, et pour éviter quoi, en fait, pour éviter les remontrances, les ultimatums, autant les mettre un peu à l'écart. Et quand il y a crise à l'écart, donc on a choisi Tanger avec comme argument proximité avec l'Europe, mais en fait la finalité était de mettre ces légations étrangères à l'écart, parce qu'en ce moment-là, il suffisait qu'il y ait un petit incident entre Maroc et puissance étrangère pour qu'un cuirassé se présente devant telle ou telle ville en menaçant soit de faire justice à X ou Y. Donc, pour éviter les ultimatums, et cela permettait aux Marzenkois de temporiser en cas de crise. Temporiser, ça veut dire, voilà, tout simplement, on se présente devant le naïf du sultan, le représentant du sultan étranger, pour lui présenter une doléance. Quand il voit que l'affaire est un peu critique, il dit, d'accord, je vais m'en référer aujourd'hui même à sa majesté qui est à Marrakech, j'envoie un émissaire à Narraqas, et puis si un John de la Mondée revient à la charge trois jours après, ou un Ferro, ou un Charles Ferro pour la France, eh ben, ou un Matthews pour les États-Unis, eh ben, on dit, vous savez, il y a eu la crue de l'ouest tel, et puis le courrier n'est pas encore arrivé, ou alors les brigands ont attaqué le coursier, et puis voilà. C'est une question de temporiser, de gagner du temps jusqu'à trouver une solution adéquate pour absorber le problème. Je dis que le Darouniyaba, donc la représentation du pouvoir central à Tanger, au début du 19e siècle, s'était vu, quand la question marocaine a été internationalisée, obligée quand même de gérer, d'apporter un peu de bonne gestion à ses archives. Et c'est là, c'est à cette période-là que je fais remonter un embryon de gestion des archives au Maroc. Le sultan a dit, ah non, ce n'est plus admissible qu'on continue comme ça, dans cette anarchie. Alors organisez-vous, ne serait-ce que affaires espagnoles, affaires françaises, affaires anglaises, etc. Et c'est cet embryon-là qu'a trouvé le protectorat français à partir de son instauration en 1912. Donc, bien entendu, l'occupation française, l'occupation coloniale, avait aussi un moyen, c'est le renseignement. Et il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas d'information sans des archives. Et là, le premier lot qui a intéressé LIOT pour amorcer une organisation des archives au Maroc, c'est le lot de Darouniyaba. C'est là l'organisation, j'allais dire, embryonnaire, hein, qui a précédé le protectorat, qui a été effectué au sein de Dar al-Niyaba durant la première décennie du XXe siècle. Sous le régime du protectorat, instauré en 1912, l'administration coloniale a accordé dès le début un intérêt particulier à la question des archives. Et d'ailleurs, tout de suite, le résident général, dès 1914, c'est-à-dire 2 ans après le protectorat, a posé un premier jalon d'organisation des archives en confiant au comte Henri de Castres, le fameux auteur des sources inédites de l'histoire du Maroc, en plusieurs volumes, en lui confiant la mission du conseiller scientifique du protectorat, avec également comme projet la mise en place d'un service s'occupant des archives. C'était en 1914, en fait la même année où le même sultan, le même résident général, le général Lioté, a promulgué aussi la réglementation de la presse au Maroc. Mais c'est pour dire tout simplement que l'information là entrait en compte comme un moyen d'occupation, un moyen de renseignement, et c'était, je considère que ça, c'est le premier jalon avec Darouniyaba. Ça pourrait être le deuxième jalon, mais le premier jalon sous le protectorat de poser les assises ou la structure des archives au Maroc. Seulement 1914, comme vous le savez tous, c'est la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est le début de la Grande Guerre. Bien que le renseignement soit indispensable pour la Grande Guerre, mais seulement ici, il devient indispensable à une autre échelle qui est internationale et non pas vraiment marocaine interne. D'où le fait que ce projet-là, initié par le comte Henri de Castres, a été gelé pendant la durée de la guerre 14-18, pour ne le reprendre, en fait. Le dossier n'a été rouvert que qu'en 1919, et pour aboutir enfin à la création de la Bibliothèque générale du protectorat en 1904, tout de suite, qui devait, c'est vrai, rassembler déjà les manuscrits qui étaient disponibles à l'École des hautes études marocaines, actuelle faculté des lettres de Rabat, et très bientôt il fallait un cadre juridique pour les archives administratives, d'où un dahir, décret royal, dahir du 1er novembre 1926, qui lui aborde directement la question des archives en stipulant que les documents d'archives générales datant de plus de 10 ans, on était déjà plus libéral qu'aujourd'hui, datant de plus de 10 ans, sont déposés à la bibliothèque du protectorat, sauf exception autorisée par la commission résidente générale. Déposer, mais ça ne veut pas dire communiquer. Ce qui est différent, on peut déposer des archives, mais sans que le commun des mortels ait accès à ces archives. Donc, c'est là une première, un premier texte, il restera le seul pendant le protectorat de réglementation des archives au Maroc, donc datant de 1926. Parallèlement à la section administrative, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la section historique qui s'occupe des manuscrits, traitant de médecine, d'astrologie, d'astronomie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, et là, ouvert pour accessible aux chercheurs. C'est donc cette loi de 1926 qui a en fait continué comme réglementation des archives au Maroc jusqu'en 1956, jusqu'au protectorat, jusqu'à la fin du protectorat, jusqu'à l'indépendance. Et le Maroc indépendant, donc à partir de 1956, ne s'est pas du tout soucié de la mise à jour ou de la mise à jour de ce texte, ne s'est même pas soucié de l'application de ce texte. En d'autres termes, le Maroc indépendant a négligé d'une façon irrationnelle la gestion des archives au Maroc, laissant libre cours aux administrations productrices de ces archives d'entretenir elles-mêmes, d'entretenir entre guillemets ou de ne pas entretenir ces archives. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'administrations, quand ces archives n'ont pas été éliminés sauvagement, parce que l'élimination des archives, comme vous le savez, est tout à fait légitime, dans le cadre d'un calendrier de gestion, un calendrier de conservation. Mais comme les ministères, comme il n'y a pas de calendrier officiel de conservation ou de gestion, en l'absence de loi réglementant ce secteur, les ministères se retrouvent un peu libres de faire ce qu'ils veulent des archives. Donc, insouciance totale pour en ce qui concerne les archives, jusqu'à deux moments forts qui vont alerter le gouvernement. Un premier moment, c'est le milieu des années 70, quand il a fallu défendre juridiquement la marocanité du Sahara occidental en déposant un dossier auprès de la Cour internationale de justice à La Haye. Vous avez un territoire, il est le vôtre. Pour le défendre, il faut le prouver, tout simplement. Pour le prouver, il faut des archives. comme les archives, même quand elles existent, quand elles ne sont pas organisées, elles sont inaccessibles. Ou alors, accessibles avec difficulté, éparpillées, non inventoriées. Et c'est le cas dans lequel s'est retrouvé le Maroc officiellement, au milieu des années 70, quand il a fallu défendre la marocanité du Sahara. Bien entendu, on a mobilisé pas mal de personnes, du ministère de l'Intérieur ou autres, pour chercher dans les archives royales, pour chercher chez les privés, mais également par l'envoi d'émissaires en France, en Espagne, et en Espagne. Entendez bien que les Espagnols n'allaient pas ouvrir les archives des Espagnols pour défendre la marocanité de l'ex-Rio de Oro, ou l'ex-Sahara espagnol. Donc le Maroc, donc, envoyait des émissaires, des collègues d'ailleurs, un peu partout pour collecter tout ce qui pouvait prouver la marocanité du Sahara. Bon, après on connaît la suite, la Cour internationale de justice a reconnu qu'il y avait bien des relations d'allégeance entre le Maroc, entre des tribus de sahariennes et le pouvoir central pendant plusieurs dynasties. Mais la leçon à retenir, ce qui nous intéresse ici, c'est que le Maroc a réalisé combien était vital ce maillon faible du Maroc moderne, du Maroc indépendant, à savoir l'absence de la gestion des archives. La conséquence a été tout simplement, non pas du tout de promulguer une loi des archives qui remplacerait celle de 1926, d'ailleurs devenue désuète, mais la fondation, ce qui a été fait, c'est la fondation de la direction des archives royales en 1975, pour au moins collecter, quand on peut, des archives, je dis bien collectées, ça veut dire qu'il n'y a pas une méthode systématique de... Vous savez, pour les archivistes, ils savent très bien qu'on doit maintenir les fonds d'archives dans leur intégralité, ne pas séparer, etc. Mais la direction des archives royales, elle fait une sélection, elle va chercher des archives aussi bien dans les palais royaux que chez les privés, que quelquefois à l'étranger, mais on sélectionne, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, on sélectionne ce qui est bien, ce qui a quand même enrichi, hein, c'est pas tout à fait négatif, ce qui a quand même enrichi les fonds de la direction des archives royales qui n'ont pas vocation à être communiqués. On communique quelquefois, mais enfin, c'est un peu d'une façon non, pas vraiment transparente. C'est-à-dire que vous cherchez aujourd'hui un inventaire précis de ce que détient la direction des archives royales, pas d'inventaire précis. Alors, on vous dit, ah oui, on a classé par tactique, ça veut dire par ordre chronologique, ou alors quelquefois par thématique, même pas. Ça dépend en fait des périodes. Alors, donc ça c'est une première alerte qui a donné, comme je vous l'ai dit, la naissance de la direction des archives royales et qui continue d'exister aujourd'hui. Une deuxième alerte, c'est, bon, je zappe ce qui n'est pas très important, une deuxième alerte, c'est le travail de l'instance équité et réconciliation. L'instance équité et réconciliation avait été mise en place par le roi en 2004, disons pour assainir un passé qui n'était pas toujours glorieux, un passé récent, l'histoire du temps présent qui n'était pas toujours glorieux, surtout en ce qui concerne les droits humains. Donc c'était quand il y avait des violations systématiques des droits humains, cette instance était appelée à donner au roi un rapport sur la situation ayant prévalu dans ce secteur-là de 1956 jusqu'en 1999, ça veut dire de l'indépendance jusqu'à le décès de Hassan II. En fait, ce qui allait permettre au jeune roi j'allais dire de tourner la page après l'avoir bien lu. Hein, on moins qu'on sache, grosso modo, là, il y a toujours quelques zones d'ombre, mais grosso modo, ce qui s'est passé réellement, et trouver, pour les gens qui le veulent bien, des moyens de réparation matérielle et psychologique. Voilà, ceux qui étaient encore en exil étaient libres de rentrer, ceux qui voulaient des réparations matérielles selon le préjudice, il y a des réparations matérielles, je n'ai pas le chiffre, on dira, mais etc. Et puis pour les victimes vraiment qui ont pâti dans leur corps, il y a un suivi psychologique et même médical. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui est une amie américaine qui s'intéresse parmi nous dans cette salle, une amie américaine, Susan Slimovic, qui s'est intéressée, elle est là.
Les deux régions pour toute l'année.
Voilà. Elle est là à Lyon pour toute l'année, donc vous pouvez lui parler et vous pourrez venir à ma place un jour pour vous présenter les conclusions. Donc elle a beaucoup travaillé sur l'IUR et continue de travailler sur les violations systématiques des droits de l'homme au Maroc. Donc cette instance avait en quelque sorte le feu vert du roi pour mener des enquêtes. On ne fait pas une enquête sur une durée de 1956 jusqu'à 1999 sans archives. Hein? Mais seulement, où sont ces archives? Elles n'existent pas. Et quand elles existent, chez certains ministères, ministères de l'Intérieur ou autres, il n'y a pas de loi qui oblige le détenteur de ces archives à les communiquer, même si le roi a donné le feu vert, il n'y a pas de loi, absence de loi. Donc, cette instance a fait de son mieux pendant 23 mois de travail pour donner, en fin de compte, 2005, pour donner, début 2007, c'est ça, pour donner un rapport final de ses activités, en signalant que ceci, l'affaire Boubacar, on n'a rien su, ceci, on n'a pas eu ceci, là, c'est éclairé, il y a eu X nombre de détenus, voici leur sort, et X nombre qu'on a de disparus, voici leur sort, voici ce que nous proposons comme réparation, etc., etc. Donc, un rapport publié, il est communicable, il est en ligne, qui éclaire un peu cette situation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cette instance a aussi mis le doigt sur les entraves à sa mission. Les entraves à sa mission, et puis a consacré un bon chapitre, j'allais dire, à la question des archives, en disant que ce n'est pas normal. Nous-mêmes, nous avons été entravés par absence d'archives et absence de loi régissant des archives. Et je fais une petite citation de ce rapport final qui dit tout simplement qu'on ne peut pas se réconcilier avec l'histoire, les Marocains ne se réconcilieront jamais avec l'histoire s'il n'y a pas une transparence en ce qui concerne les archives. Je vais lire la citation. La réconciliation avec l'histoire nécessite la levée des obstacles qui empêchent la recherche sur cette histoire, la systématisation des expériences accumulées au fil des générations, ainsi que la consécration de la communication entre elles pour la sauvegarde de la mémoire. Cela exige, continue le rapport, la révision globale de la situation des archives publiques et la mise en place des conditions d'une réforme profonde. À cette fin, continue le rapport, l'instance, fondée l'instance Équité et Réconciliation, a tenu une rencontre autour du thème des archives au Maroc, à laquelle j'avais collaboré. Donc, ils n'ont pas dit dans le rapport, ça c'est moi qui l'ai dit, à laquelle ont pris part des spécialistes en histoire, en archives et en documentation. Les travaux ont porté sur la sensibilisation des personnes concernées à la nécessité d'organiser les archives, l'organisation des archives et l'institution nationale chargée des archives dans un cadre juridique bien défini et transparent à même de garantir l'entretien, la sauvegarde, le développement et l'exploitation de ces archives, ainsi que l'organisation de l'accès des citoyens, chercheurs et instituts audites archives. Enfin, le renforcement et l'actualisation des programmes de formation sur les archives, de manière à garantir la qualification des ressources humaines œuvrant dans ce domaine en les dotant de la compétence et du savoir-faire nécessaires à une gestion rationnelle et démocratique des archives. Fin de citation. Ainsi donc, c'était début 2005, comme en Europe, on ne se précipite pas trop, il y a un autre temps, il y a un temps assez long pour réagir. Début 2005, novembre 2007, exactement le 30 novembre 2007, la première loi marocaine sur les archives est promulguée, le 30 novembre 2007. En fait, la première loi après celle de 1926 de la période coloniale. Bon, cette loi, tout de suite, elle a fait objet de discussions, de colloques, d'interventions, je ne sais pas, des universitaires, de l'Association marocaine pour la recherche historique, de l'Institut royal pour la recherche en histoire du Maroc, de la société civile, du Centre pour la liberté des médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Conseil consultatif des droits de l'homme, etc., etc. Tout le monde en a débattu. Après promulgation, bon, certains y ont vu une bonne avancée, certains ont critiqué certains aspects, je ne sais pas, les degrés de communication, le fait d'accepter les archives de l'armée, par exemple, et bien d'autres aspects, absence de, comment dirais-je, d'une transparence en ce qui concerne les archives audiovisuelles. En fait, ça, comme dans n'importe quel colloque, comme dans n'importe quelle table ronde, il y a à boire et à manger dans les discussions. Donc, mais les discussions les plus sérieuses, du moins de mon point de vue, c'est celles organisées sous le CCDH, le Conseil consultatif des droits de l'homme, qui a créé un groupe appelé Groupe Archives, Histoire et Mémoire. En fait, pour réfléchir à des moyens susceptibles de donner vie à un texte paru au bulletin officiel, ça reste un texte fondamental, pour lui donner vie, il faut une réplication, il faut une volonté, il faut une réflexion. Et là, je crois que ce groupe a travaillé, il y avait des collègues que certains parmi vous connaissent, Ken Bibbs, ce petit, moi-même, comme historien, mais il y avait d'autres militants des droits de l'homme qui ont appartenu à ce groupe, qui s'est réuni une fois, je ne peux pas vous dire exactement combien de fois, fait des propositions. Et c'est, on n'a pas toujours réussi, hein, en fait. Essayer d'éviter, par exemple, la tutelle du ministère de la Culture sur les archives, là où on n'a pas réussi, pas parce que nous avons quelque animosité ou contre le ministère de la Culture, non, pas du tout, c'est que tout simplement le ministère de la Culture, c'est un des ministères les moins lotis au point de vue moyen au Maroc, et par conséquent, un secteur transversal comme celui des archives devrait relever directement de la primature du Premier ministre, ou pourquoi pas le chef d'État, mais comme quelquefois nous copions la France, même dans les choses les moins pertinentes, nous l'avons copié également là, en ce qui concerne la tutelle du ministère de la Culture. Donc un décret est sorti et les archives sont sous la tutelle du ministère de la culture, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Donc, il y a eu des propositions qui sont faites, qui sont débattues dans la presse, qui sont élevées à plusieurs niveaux pour que qu'il y ait une très bonne concrétisation des stipulations de la loi sur les archives. Bon, et c'est en vertu de cette loi que ma modeste personne a été repérée, en fait, je ne sais pas si c'est une raison ou tort, pour me donner, pour me confier cette mission de mise en place des archives du Maroc après une absence, un vide de plus de 50 ans après l'indépendance. Franchement, je vous dis honnêtement, j'ai dit non. J'ai dit non, je suis bien dans mon cocon universitaire avec toute ma liberté et avec un volume horaire de travail de 6 à 8 heures par semaine. J'étais très bon. Eh bien, bon, on m'a forcé la main, on me dit d'où notre blague est. Bon, bien sûr, je me suis référé, j'ai eu conseil de mes maîtres, hein, j'allais dire. Bon, c'est Brahim Boutal, Kabli, etc. Brahim Boutal me dit que tu connais Daniel, je parle de Daniel Rivet. Écoute, Jamas, si demain on mettait là quelqu'un qui ne ferait rien pour la cause des archives, tu formulerais des critiques, j'ai dit oui. Ah ben, il me dit qu'on ne peut pas les formuler, il faut assumer, mon cher. Ah, cet état t'a tout donné, aujourd'hui, il attend que tu lui donnes quelque chose. C'est un petit parmi les personnes qui m'ont convaincu. Après, voilà, je vais voir Kabli, il a rigolé. Je fus parmi les gens qui ont un peu suggéré ton nom. Bon, après quelques échanges, donc j'ai accepté à la Barcatilla, on verra bien. On verra bien. Et depuis donc fin mars 2011, j'ai cette responsabilité de mise en place des archives du Maroc.